Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
À l'occasion de l'apparition du livre de Jacques Pradel, Police scientifique, l'émission L'heure du crime est en direct aujourd'hui de l'Institut de recherche criminalistique de la Gendarmerie nationale au fort de Rosny-sous-Bois. Bonjour Jacques.
Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce direct exceptionnel car c'est la toute première fois qu'une émission de radio ou même de télévision a lieu en direct depuis le fort de Rosny-sous-Bois dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Cette émission, nous la réalisons en compagnie de nos amis du Parisien, c'est un partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. D'ailleurs Damien Delceni qui est journaliste au Parisien, qui est un spécialiste à la fois du terrorisme mais également du grand banditisme, profitera de l'occasion pour interroger mes invités qui sont le colonel François Daoust. Bonjour mon colonel.
Bonjour Jacques.
Alors à tout seigneur tout à l'heure, vous êtes le directeur de cet institut de recherche criminelle. Alors moi je dis toujours criminalistique, c'est important la sémantique
La sémantique peut être importante, c'est vrai. Initialement, nous aurions aimé que ça s'appelle criminalistique, mais à l'époque, eh bien, c'était pas dans l'air du temps. Et surtout, tout le monde ne comprenait pas ce qu'était la criminalistique.
Voilà, il faut retenir en fait les initiales IRCGN. C'est un sigle qui est de plus en plus familier aux spectateurs parce que vos équipes participent activement à cet éternel combat contre le crime avec vos outils qui sont des outils de police scientifique. Première question, colonel Daoust, combien de divisions l'IRCGN? Est-ce que c'est le bout d'une longue chaîne,
fait? C'est une chaîne, c'est le haut de la chaîne, c'est le niveau national, avec une possibilité de projection sur les scènes de crime des experts du laboratoire, aux côtés des techniciens départementaux, des techniciens d'identification criminelle.
Alors, ça fait quoi, quelques milliers de personnes?
Ça fait, pour le laboratoire, 220 scientifiques pour 230 à l'effectif. Et ces 220 scientifiques sont répartis en trois divisions. Donc vous demandiez combien de divisions? Il y en a trois.
Il y en a trois.
Une pour la physique-chimie, une pour l'informatique et une pour l'identification humaine.
Voilà. Et beaucoup de travail parce que maintenant la police scientifique est évidemment actionnée, si j'ose dire, par les équipes de terrain le plus souvent possible parce que plus tôt vous arrivez sur place pour faire les prélèvements. Alors ce sont les TIC, je crois, les techniciens en investigation criminelle qui sont des personnels formés pour faire de bons prélèvements parce que sans bons prélèvements, il n'y a pas de bonnes analyses et il n'y a pas de bonne expertise.
Tout à fait. Donc eux, ils sont formés pendant 9 semaines. Nous participons avec le Centre National de Formation de la Police Judiciaire à leur formation, notamment dans le côté technique et scientifique des choses. Le prélèvement doit être protégé et on ne sait pas ce que va devenir ce prélèvement. Donc s'il est mal prélevé, par définition, on aura beau avoir un beau laboratoire, une très belle analyse, mais elle ne sera pas concluante.
Je ne peux pas m'empêcher de vous demander au début de cette émission quand même comment vous situez par rapport à vos concurrents les plus directs, c'est-à-dire les experts de la télévision et du cinéma.
Alors, je dirais la première chose, c'est que le temps du scientifique n'est pas le temps du médiatique. Ça, c'est clair et net. À savoir résoudre toutes les analyses qui nous montrent avec les mêmes personnes dans tous les domaines en 40 minutes, j'aimerais y parvenir, croyez-moi.
Mais les outils qui sont montrés à la télévision et au cinéma sont les bons outils, dont vous vous servez quotidiennement.
Oui, ce sont les bons outils, ils sont très bien renseignés. Il y a un ancien directeur de laboratoire qui est leur conseiller technique. Donc là-dessus, les outils sont les bons. Après, le professionnel que je suis, quand je vois la série, de temps en temps, je fais des bons, parce que il y a des pollutions de scène, on fait pas les analyses à main nue, etc., etc. Mais à part ça, les outils sont bons et les techniques dont ils parlent existent.
Alors, on va parler évidemment d'affaires criminelles. Tout à l'heure, on va évoquer l'affaire Flactive parce que c'est le cas d'école absolu, j'imagine, pour vos équipes et pour vous, la satisfaction absolue d'avoir pu appliquer sur le terrain, cette fois-là, en tout cas, toutes les techniques qui ont permis de confondre un criminel et de résoudre un grand mystère. C'est ce qu'on avait appelé d'ailleurs le mystère du chalet du Grand Bornand. On y reviendra tout à l'heure. On parlera parlera d'autres affaires criminelles. Mais près de moi, j'ai également un autre membre de l'IRCGN. Alors, il est à la fois médecin et général. Je vous dis bonjour docteur ou bonjour membre général ?
Comme vous voulez.
Yves Chulliard. Yves Chulliard, qui est médecin-chef des services de l'IRCGN. Mais avec vous, on verra que cette science criminalistique qui sert évidemment à résoudre des affaires criminelles, à identifier des victimes inconnues d'affaires criminelles, peut également servir, et c'est un axe très important de vos activités ici, à ce qu'on appelle la médecine de catastrophe naturelle ou accidentelle, en fait.
Tout à fait. Depuis 1992, nous avons développé au sein de l'Institut donc une unité dédiée à l'identification des victimes.
Et c'est parti donc d'ici, c'est-à-dire c'est vous, je crois, au tout départ, qui avez formé ces équipes, dont vous êtes maintenant le coordinateur, et c'est vous qui formez les gens qui vont aller sur le terrain pour identifier les victimes.
Alors, effectivement, donc, au début, donc, nous avons eu l'idée de monter une équipe dédiée à cette activité, et nous sommes rapprochés des travaux de l'Interpol, où à Interpol existe un comité permanent d'identification de victimes de catastrophes. Et donc nous avons préparé notre équipe et peu de temps après la création de l'équipe, il y a eu l'affaire du Mont-Saint-Odile.
Ouais. Le Mont-Saint-Odile, il y a eu le crash du Concorde, il y a eu ensuite le tsunami de 2004 dont on va parler ensemble tout à l'heure. Et puis beaucoup plus près de nous, l'accident du Rio Paris et ça fait partie de l'actualité puisqu'il y a moins d'une semaine, je crois, de mémoire, on a appris que les corps, en tout cas, qui avaient été exhumés de l'Atlantique avaient tous été, sauf une, je crois, identifiés.
Effectivement, nous avons travaillé donc sur l'identification des corps pour le vol d'Air France.
Alors, vous nous raconterez, parce que c'est absolument passionnant et ça fait partie de mes découvertes personnelles quand je suis venu ici pour un long stage, mais épisodique quand même, l'année dernière à l'IRCGN. Vous nous expliquerez comment on arrive justement à identifier les personnes, parce que ça, c'est aussi une technique, un processus que vous avez inventé. Et il faut le dire, ben, voilà, c'est le premier coup de chapeau de cette émission. Près de moi, c'est un autre général, le général Jacques Hébrard, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors Jacques Hébrard, vous êtes d'abord un ancien patron de l'IRCGN, vous avez rempli les fonctions du colonel Daoust pendant quelques temps, vous êtes actuellement conseiller pour la criminalistique auprès du directeur des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale. En fait, vous êtes commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Lorsqu'on dit que la création de l'IRCGN est due à une sorte d'électrochoc, un ratage, je ne sais pas comment il faut dire, un échec, une humiliation peut-être dans l'affaire Grégory, et que c'est à cause de ce qui s'est passé en 1984 pendant l'affaire Grégory que l'IRCGN est né.
Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. C'est la prise de conscience par la gendarmerie. Et quand on regarde les images de l'époque, on voit encore des gendarmes avec un baudrier, une scène d'infraction qui est piétinée par énormément de personnes, y compris des magistrats, enfin toutes les équipes intervenantes à ce moment-là. Et c'est la prise de conscience que, bon, on n'était pas dans les purs. Et à ce moment-là, on décide de faire un schéma directeur de la police technique et scientifique. Donc c'est la création des techniciens d'identification criminelle, la mise en place de moyens pour prélever, de formations adaptées. Et puis on se dit que pourquoi pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et on décide de créer un laboratoire qui sera d'abord la section technique d'investigation criminelle de la gendarmerie. Donc le challenge est confié à l'époque le commandant Caillé, qui lui est polytechnicien. Et donc on lui demande de réfléchir à ce que pourrait être ce laboratoire. Et c'est comme ça que l'équipe que vous avez autour de la table, François Daoust, Yves Chulliard, s'est trouvé partenaire de cette épopée.
Très, très rapidement, si vous aviez eu les enquêteurs, je veux dire, en 1984, les moyens actuels de l'IRCGN. Alors, je sais qu'avec des si, on peut dire beaucoup de choses, mais est-ce que vous pensez que l'affaire Grégory, par exemple, aurait pu être résolue ?
Bon, c'est toujours dur à dire parce qu'on n'est pas, je dirais, présent à l'époque, sur les lieux de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que les technologies, par exemple, l'étude des diatomées, puisqu'il y avait un problème de noyade, enfin, il y a beaucoup de techniques dont nous disposons aujourd'hui, bon, l'ADN par exemple, et puis peut-être les protections déjà des objets saisis qui auraient forcément changé la donne. Maintenant, de dire si ça aurait pu être résolu, c'est une autre affaire, mais c'est sûr qu'on aurait certainement pu mieux faire.
En tout cas, on reviendra dans cette émission, dans le cours de cette émission sur l'affaire Grégory, parce que tout le monde le sait, ce que j'ai appelé personnellement les expertises de la dernière chance ont lieu en ce moment. On y reviendra tout à l'heure avec nos invités. On se retrouve dans un instant avec un premier exemple de ce que peut donner l'utilisation de la police scientifique pour résoudre une affaire mystérieuse et criminelle, l'affaire Flactif. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'heure du crime sur RTL est en direct aujourd'hui de l'IRCGN jusqu'à 15h à l'occasion de la parution de votre livre, Jacques Pradel, Police scientifique.
Alors on va retrouver mes invités pour parler cette fois-ci concrètement, parce qu'il n'y a rien de mieux, à part des longs discours, il vaut mieux prendre une affaire, la disséquer et vous raconter comment elle a été résolue. C'est le cas de cette affaire qui démarre le samedi 12 avril 2003 par la disparition constatée de toute une famille, un couple et leurs trois enfants tout jeunes, un petit garçon de 7 ans et deux fillettes de 9 et 10 ans. Et c'est un autre garçon qui s'appelle Mario, qui a 14 ans, qui vit avec son père, lui, dans le Nord, qui vient rejoindre pour quelques jours sa mère et son beau-père, qui va constater que la maison est ouverte, mais il n'y a personne dedans. Donc, évidemment, les gendarmes sont alertés à une disparition de 5 personnes d'une famille. Colonel Daous, c'est quand même pas banal. Et donc, tout de suite, dès les premiers jours, les équipes spécialisées, alors vous allez nous dire comment vous procédez à ce moment-là, investissent cette maison qui apparemment a été nettoyée, il n'y a pas de traces qui permettent d'imaginer ce qui a pu se passer.
Oui, Mario, le fils, découvre une maison rangée. Pour lui, ranger. Quand il connaît ses frères et sœurs, et vous comme moi, nous savons pertinemment que nous habitons chez nos enfants. Et avoir une maison rangée, c'est pas normal.
Ouais, donc ça titille les premiers gendarmes qui arrivent sur place.
Hein. Oui, parce que c'est bien expliqué. Et les gendarmes, là, on a le déroulement de toute la chaîne de travail criminalistique, des techniciens d'identification criminelle jusqu'au laboratoire. Puisque personne n'est rentré, même le fils n'est pas rentré, ne s'est pas promené dans la maison. Mmh. Il a dit qu'il a ouvert un volet, il a regardé à travers ce volet. Eh bien, on a une scène qui n'a pas bougé depuis la disparition.
Et qui n'a pas été polluée, comme, selon l'expression, voilà. Donc, par des témoins extérieurs. Oui. Et c'est donc dans cet univers de cette maison qui est très grande, qui comporte plusieurs étages et plusieurs chambres, que vos techniciens vont travailler. Alors, les équipes locales font appel à un moment aux spécialistes de l'IRCGN, donc aux experts de la gendarmerie.
Oui. On ne sait pas ce que c'est. Les enquêteurs ne savent pas si c'est une disparition volontaire, si c'est un accident de véhicule avec... c'est la Haute-Savoie, est-ce qu'il est tombé dans un ravin avec la famille? On ne sait pas. Donc, les techniciens en identification criminelle localement avec le procureur de la République décident de faire comme si c'était une scène de crime. On ne sait jamais. Ouais. Il faut fermer toutes les portes. Mmh. Et là, nous sommes face à un chalet qui est sur plusieurs niveaux. Il y a plus de 250 mètres carrés sur lesquels il faut travailler et ils font appel à l'IRCG.
Alors là, on ne peut pas raconter par le menu toute cette enquête, mais on va dire qu'assez rapidement, grâce à des procédés techniques, à l'époque je crois que c'était Blue Star, non?
C'était le Blue
Star,
oui.
C'est la technique Crimescope, non? C'est ça, vous pouvez nous dire un petit mot. Qu'est-ce qu'on fait? On pulvérise un produit chimique dans la maison?
Oui, on pulvérise un produit chimique dans la maison. Ce produit chimique réagit avec les ions métalliques qu'il y a dans le sang. Donc vous pouvez laver n'importe quelle scène de crime. Eh bien, quand on est au niveau d'un ion, c'est tellement petit que ça reste un petit peu partout, malgré le lessivage.
Les taches de sang lessivées deviennent luminescentes.
Exactement. Là, en fait, ouais. Excité par une lumière particulière, longueur d'onde particulière du crimescope, et la réflexion de cette lumière se fait dans le noir, sous UV, et on voit parfaitement toutes les traces de sang qui peuvent exister.
Et c'est là où les enquêteurs et les experts s'aperçoivent que du sang, il y en a plein à la maison et que ces gens ont été vraisemblablement massacrés. Alors ensuite, ça continue, il y a aussi la recherche de l'ADN, évidemment.
Hein. Alors, c'est-à-dire que toutes les techniques de la criminalistique sont mises en place. Et le découpage est fait, on travaille méthodiquement avec les techniciens locaux. Et on ne se focalise pas sur un élément plutôt qu'un autre. Ce sont les fibres, ce sont les poussières, c'est les traces de terre, les traces de semelles, s'il peut y en avoir. Ce sont tout ce qui peut être poil, tout ce qui peut être recherche d'ADN, recherche de sang. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la science. Mmh. Tout est collationné, tout est référencé, tout est mis sous scellé et envoyé au laboratoire.
Voilà, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit à un moment qu'il y a donc 6 ADN dans la maison. 5 correspondent à l'ADN des victimes qui a pu être retrouvé, comparé, analysé. Et il y a un ADN inconnu. L'ADN inconnu, c'est celui du coupable, celui qui sera en tout cas condamné pour ce meurtre devant la justice. Et on va terminer l'évocation de cette affaire avec une archive RTL que nous avons retrouvée donc dans les archives de la rédaction. David Otia, puisque c'est son nom, avait été interpellé dès 2003 d'ailleurs. Il avait avoué être l'auteur du meurtre de la famille, mais il parlait d'un crime propre. Il n'admettait pas que ce crime, contrairement à ce que disaient les enquêteurs et les experts, ait pu être une véritable boucherie. Et malheureusement, cette version, bien différente de celle de l'accusé, a été expliquée devant le tribunal par les experts donc de l'IRCGN au cours du procès au mois de juin 2006. Étienne Baudu, qui suivait ce procès pour RTL, raconte. Écoutez.
L'horreur déjà sur les photos présentées cet après-midi par Philippe Esperanza, l'expert en morpho-analyse de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Grâce à un nouveau procédé, le Blue Star, les traces de sang qui ont été effacées, lavées à l'eau par exemple, ces traces réapparaissent en bleu fluorescent. Or, 6 jours après le quintuple assassinat, cet expert passe toutes les pièces du chalet Flactif au crible. Elle a été nettoyée par le tueur, mais sur les photos qu'il prend, on s'aperçoit qu'il y a du sang partout. L'expert peut également, à partir de taches de sang et après de savants calculs trigonométriques, localiser avec précision l'endroit où se trouvait la victime et à quelle hauteur un coup a été porté sur une plaie ensanglantée. Et à partir de là, à partir de ces détails, le macabre scénario défile. Grégory et Laetitia ont été tués les premiers dans la cuisine alors qu'ils prennent leur goûter, battus à mort par un objet contondant, une bûche, une torche ou alors à point nu, on ne sait pas bien. Puis c'est Laetitia, elle est tuée, elle, dans sa chambre, frappée elle aussi, entre 70 et 80 cm du sol. Peut-être s'était-elle réfugiée dans son bureau. Ensuite, lorsque Graziella rentre chez elle, le meurtrier l'attend près de la buanderie. Elle aussi est frappée, plus bas, 60 cm. Peut-être a-t-elle été abattue avant. Enfin, Xavier Flactif, en dernier, lui est sans doute tué par balle après une violente altercation. Les corps ensanglantés seront ensuite traînés dans la maison avant d'être transportés dans une forêt pour y être incinérés. Seul argument pour l'instant de la défense, la science de M. Esperanza est toute relative. Du point de vue des parties civiles, elle est surtout accablante pour David Otia.
On reviendra sur les techniques de M. Esperanza, comme le disait à l'instant Étienne Baudu, avec nos invités, parce que la morpho-analyse des traces sanguines est un outil absolument extraordinaire dont nous parlerons notamment avec le docteur Chulliard dans un instant. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime est en direct de l'IRCGN jusqu'à 15h sur RTL à l'occasion de la parution de votre livre, Jacques Pradel, Police scientifique, la révolution. Bien sûr, vos appels sur le 3210, allez-y, ou encore rtl.fr.
Oui, Isabelle, évidemment, c'est un livre qui n'aurait pas pu voir le jour si j'avais pas été reçu par les différents responsables du haut en bas de la hiérarchie, d'ailleurs de l'IRCGN, qui ont accepté d'ouvrir les portes de leur laboratoire et de me parler, de répondre à des questions parfois naïves, hein, colonel Daoust, mais l'idée, c'était de bien montrer au public la différence entre ces experts de papier ou de pellicule et puis les vrais experts, les vôtres, les 200 et quelques personnes qui travaillent ici dans les laboratoires, comme vous le disiez tout à l'heure. On va revenir tout de suite avec vous, avec le docteur Chulliard aussi, sur ces outils techniques de police scientifique. Alors il y en a un qui vous concerne particulièrement, Yves Chulliard, c'est ce qu'on appelle donc la morpho-analyse des traces de sang, qui a été tellement déterminante dans l'affaire Flactif qu'elle a permis, je crois, aux enquêteurs et aux experts non seulement de reconstituer le scénario des différents meurtres, mais surtout de reconstituer même la chronologie des meurtres. Comment c'est possible ?
Alors, effectivement, on a parlé avant du Blue Star, donc c'est quelque chose de très important. On va détecter du sang, des projections anciennes ou du sang qui a été lavé. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, nous, on a des spécialistes donc, qui sont dédiés à cette activité de morpho-analyse de traces de
sang. Donc, ils analysent la forme des traces de sang qu'on retrouve sur un plancher, sur un plafond, sur un mur.
Alors, tout à fait. Ouais. Quand il y a un crime sanglant, quand il y a des coups sont portés, quand il y a une attaque à l'arme blanche ou avec une arme à feu, il y a des projections de sang, il y a des giclures, il y a des flaques, etc.
Et l'expert peut dire, ça, c'est un couteau, ça, c'est plutôt une arme à feu.
Alors, effectivement, on se déplace sur place, on prend un certain nombre de mesures, des photographies, etc. Et à partir de la forme des taches, de l'orientation des taches, de la distribution des temps, du sang, pardon, on en déduit un certain nombre de choses quant au déroulement des faits. Position de l'agresseur, la position de la victime, le nombre de coups portés, les déplacements, etc. etc.
Ouais. Et ce qui est formidable, je crois savoir, c'est à l'époque, je ne sais pas si à l'époque Flactif, ce procédé qui permet de mettre en évidence des traces de sang même lavées, est-ce que ce procédé permettait de chercher l'ADN de ces traces de sang ?
Alors, effectivement, donc, du sang a été lavé, on ne le voit pas à l'œil nu. Donc le Blue Star va le révéler par luminescence. Après, il s'agit de faire des prélèvements. Entendons-nous bien, le Blue Star ne dit pas si c'est du sang humain ou pas, ni si s'il y a de l'ADN dedans. Donc il faut ensuite, après découverte par le Blue Star, prélever et confirmer par des analyses ADN la provenance du sang.
Voilà, ce qui fait que chaque technique, chaque outil est finalement le maillon quoi, d'une chaîne que les experts essayent d'utiliser au maximum de leurs possibilités sur une scène de crime. Quoi.
Tout à fait. Non, vraiment, le maître mot de nos activités, c'est multidisciplinarité.
Alors, je voudrais donner la parole à mon confrère Damien Delceny, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, spécialiste du grand banditisme et aussi des questions de terrorisme. C'est à vous, mon cher Damien.
Oui, juste pour rebondir un petit peu sur tous les propos qui ont été tenus depuis le début. D'abord dire qu'aujourd'hui, la police scientifique, elle a fait son entrée dans toutes les affaires criminelles, que ce soit le très grand banditisme, le terrorisme. On l'a vu, enfin on le verra tout à l'heure avec les accidents, les catastrophes aériennes, mais aussi dans toutes les données de la police judiciaire, que ce soit des cambriolages, des crimes, des braquages. On se sert maintenant partout de la police technique et scientifique, on se sert partout de l'ADN. Alors c'est pas une fin en soi, ça je crois que les gendarmes l'expliqueront mieux que moi, c'est un outil, ça doit pas devenir l'alpha et l'oméga d'une enquête de police, mais en tout cas c'est quand même une aide considérable parce qu'on sait quand même qu'en général sur une scène de crime, malgré tous les efforts que font de nombreux criminels aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui va rester quoi. Ça peut être un cheveu, ça peut être un mégot de cigarette, ça peut être un emballage de bonbons ou de sandwich, une goutte de sueur, ça peut être un petit peu tout, ce qui explique aussi que c'est très important d'avoir une méthode quand les gendarmes et les experts arrivent sur une scène de crime, d'avoir une méthode de recherche, de ne pas arriver à 30 et à piétiner tout ce qui est autour d'un corps, etc. Et de savoir que, encore une fois, ils l'expliqueront mieux que moi, mais que tout doit être ramassé. C'est-à-dire que même, encore une fois, le paquet de bonbons qui va se trouver peut-être à 40 ou 50 mètres d'un corps peut éventuellement être le paquet de bonbons qui a été laissé par un type qui guettait, ou etc. Donc il y a vraiment une méthode, il y a une énorme importance maintenant de cet aspect-là dans les enquêtes.
Et vous, donc, qui couvrez toutes ces affaires de grand banditisme, est-ce que vous avez noté que, puisque là on est du côté, on va dire, si c'est la lutte contre le crime, là,
alors, du côté obscur de la force.
Ouais.
Alors, ça fait quelques années que les bandits, les voyous s'adaptent. Ils travaillent avec des cagoules, avec des gants, pas seulement parce que par souci vestimentaire, mais parce que ça leur permet de laisser moins d'indices sur les lieux.
Ouais.
Il y a aussi quelque chose qui est assez ancien, c'est de faire brûler, par exemple, les voitures qui sont utilisées pour des braquages ou des actes criminels. Il y a aussi aujourd'hui, c'est assez terrible parce que ça ajoute encore à l'horreur des faits, mais beaucoup d'affaires criminelles où on brûle les corps. Ça répond pas à un rituel, ça répond surtout à un souci pour le criminel d'effacer des traces. Que ce soit des traces de sperme, des traces d'empreintes digitales, etc.
Mais donc, je pose la question là aux experts. Oui, Jacques Hébrard, vous ne tombez pas sur des scènes de crime où il n'y a vraiment rien à glaner, il y a toujours quelque chose.
Il y a toujours quelque chose à glaner. Et puis, on a installé une logique de coordinateur des opérations criminalistiques. C'est-à-dire, on a introduit en gendarmerie un espèce d'ingénieur de scène de crime qui, lui, est formaté pour effectivement chercher le maximum d'éléments sur la scène d'infraction.
Et veiller, qui peut donc diriger
voilà,
ceux
diriger,
qui prélèvent,
et puis surtout, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est on prélève tout. On n'exploite pas forcément tout, mais c'est ce personnage-là qui va, et là il faut quand même bien le souligner, en liaison avec le directeur de l'enquête. La police technique et scientifique n'est qu'un auxiliaire, je dirais, de l'enquête et de l'officier de police judiciaire. Donc c'est lui qui prélève et ensuite il choisit d'envoyer tel ou tel prélèvement dans un laboratoire.
Alors on va se retrouver dans quelques instants après une nouvelle pause dans cette émission. Vous pouvez continuer à nous appeler bien sûr au 3210 ou à nous envoyer des courriels par rtl.fr et on va parler de la médecine de catastrophe. A tout de suite.
Nous retrouvons l'heure du crime en direct de l'IRCGN avec Jacques Pradel et ses invités tout de suite.
Oui, mais vous allez voir, vous allez pouvoir dire ça très demain, vous le direz hier, CGN, sans problème, ma chère Isabelle.
Oui, alors, t'es un peu gêné par le jingle en dessous.
Oui, ce que j'entendais. Oui. Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. C'est une série de laboratoires composés de 3 divisions dont on parlait tout à l'heure avec le colonel Daoust, qui est le patron de l'IRCGN et qui est mon invité. invité aujourd'hui avec le général Jacques Hébrard, ancien patron de l'IRCGN, et avec le docteur Yves Chulliard, qui lui est médecin-chef des services de l'IRCGN. Et donc, en fait, vous avez, je ne veux pas dire que vous faites le grand écart, mais enfin, vous avez des compétences autant dans ce que la médecine, dans la police scientifique peut apporter pour l'identification de victimes de crimes, mais également, vous avez la connaissance du terrain et des problèmes spécifiques que pose l'identification des victimes. Avant de vous laisser la parole, je voudrais qu'on entende une autre archive de la sonore de la rédaction d'RTL. C'était le 7 novembre dernier, donc c'est tout récent. On apprend que tous les corps repêchés du crash Rio-Paris ont fini par être identifiés, enfin tous sauf un, je crois. Et dans le flash d'Odile Pouget du 7 novembre à 14h, donc on évoque cette dépêche qui vient de tomber sur l'AFP.
La fin en quelque sorte d'un long chemin de croix pour les familles des victimes du crash Rio-Paris. Sur les 104 dépouilles retrouvées au printemps dernier au fond de l'Atlantique, 103 ont été identifiées par les enquêteurs. C'est ce qu'annonce l'association Entraide et Solidarité, AF447. La catastrophe avait fait 228 morts au total. 74 corps reposent toujours au fond de l'océan. Dans ce dossier, Air France et Airbus sont mis en examen pour homicide involontaire. Un rapport intermédiaire du Bureau d'enquête et d'analyse a souligné une série de défaillances de l'équipage sur la base des données fournies par les boîtes noires de l'appareil.
Alors, mettre au point un protocole d'identification humaine dans le cadre d'une catastrophe aérienne ou d'une catastrophe naturelle, Yves Chulliard, ça représente d'abord beaucoup de réflexion, je pense, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le processus qui se met en branle dès que, puisque vous avez une sorte de cellule de veille dès qu'une catastrophe survient?
Effectivement, nous avons mis en place au sein de l'Institut une unité dédiée à l'identification des victimes de catastrophes.
Il y a une cinquantaine de personnes qui sont toujours quasiment l'arme au pied, prêtes à partir, quoi.
Oui, tout à fait, ouais. Et qui peut intervenir à différents niveaux, parce qu'il faut savoir qu'une catastrophe se gère selon trois aspects principaux. Il y a tout d'abord quand le relevage des corps, puisqu'il y a un lieu de catastrophe, un avion s'est écrasé, il y a des corps, il va falloir les relever, comme l'on dit, donc les récupérer avec toute une méthodologie.
Oui, parce que ces corps, les blessures que les corps comportent peuvent donner des indications sur ce qui s'est passé en fait.
La position des corps, l'aspect des corps corrélé avec l'aspect de l'avion, bien sûr, ça a une importance dans l'enquête judiciaire.
Ouais. Alors ensuite, comment identifier quelqu'un qui malheureusement très souvent a subi de graves blessures, qu'elle parfois défigurée. Vous avez plusieurs équipes qui travaillent en commun sur deux aspects très différents.
En gros, le processus d'identification de catastrophe est relativement simple. Il faut comparer ce que l'on appelle, nous, les données post-mortem provenant de l'examen des corps et des prélèvements qui sont réalisés, oui, comme par exemple l'ADN, oui, avec des données que nous appelons antémortem, des informations qui proviennent des familles, des praticiens, etc.
D'accord, donc des équipes qui doivent être en contact avec les familles de victimes.
Tout à fait.
Pour savoir à la fois comment ils étaient habillés, s'ils avaient des signes particuliers.
Alors cette équipe antémortem, elle est primordiale, puisque sans informations sur les victimes, on ne va pas pouvoir identifier. Oui. Donc notre équipe, je dirais, se scinde en deux, l'équipe post-mortem, et puis l'équipe antémortem avec l'appel aux familles, l'appel aux praticiens et le recueil de données.
Et ça, ce sont des techniques que vous avez mis en œuvre aussi bien pour le Mont-Saint-Odile qui a été un peu le... il n'y avait rien, il a fallu tout créer, je crois, à l'époque, si j'ai bien compris.
Effectivement, donc nous avons démarré avec une petite équipe.
Mont-Saint-Odile, c'était en 92.
En 92, il faut bien savoir que c'est regrettable, mais nous avons participé à près de 45 missions depuis cette date, que ce soit en France ou à l'étranger, parfois dans des contrées lointaines, la Thaïlande avec le tsunami.
Par exemple. Alors, une question que le public se pose aussi, c'est que ces équipes-là... vivent des situations psychologiques extrêmement dures, parce que être sur une scène de catastrophe, relever des victimes alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de morts, comment est-ce qu'on peut surmonter ça?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que les gens qui travaillent dans nos équipes sont des volontaires pour travailler. Et puis, Certaines personnes acceptent de travailler dans le post-mortem que je viens de décrire, oui. Et d'autres travailleraient plus volontiers donc, dans la collecte des renseignements auprès des familles.
Oui.
Mais qu'il s'agisse du post-mortem ou de l'antémortem, il faut bien être conscient sur le plan psychologique, c'est bien entendu très
difficile. Vous avez des psychologues qui s'occupent de ces équipes
Tout à fait. Donc, nous avons instauré un suivi psychologique de nos personnels avec au retour de chaque mission ce qu'on appelle un débriefing.
Ouais. Alors, j'avais en tête, évidemment, comme tout le monde, hein, le tsunami de 2004, de décembre de 2004. Je crois qu'au total, plus de 150 Français sont allés sur le terrain. Des équipes à vous, mais aussi des policiers, des dentistes. Enfin, il y a eu une sorte de chaîne comme ça d'entraide qui s'est fait. Et vous avez pu identifier. Vous n'avez pas travaillé spécifiquement sur les victimes françaises, hein, d'ailleurs.
Ah non, il y a près de 5000 victimes en Thaïlande. Nous avons travaillé aux côtés d'équipes internationales sur les corps sans savoir au moment de l'examen des corps de qui il s'agissait.
Oui.
C'est la confrontation ultérieure entre les données et les résultats d'examen qui a permis l'identification.
Alors on va faire une nouvelle pause. Dans un instant, on va aussi jeter un œil sur les questions que se posent les auditeurs de cette émission. Je suis sûr qu'il y en aura une, je vous demande une réponse courte, mais sûr qu'il y en aura une qui dira mais il faut bien commencer, il faut bien apprendre ces techniques particulières là de médecine de catastrophe. Vous recevez des novices, si j'ose dire, vous formez des gens sur le terrain.
Nous veillons à ce que donc, dans chaque mission, bien sûr, il y a des personnels chevronnés qui pilotent, mais nous intégrons effectivement des nouveaux dans les équipes de manière à pouvoir les étoffer en prévision d'une éventuelle catastrophe importante. Médecin, il faut être spécialiste en empreinte digitale, dentiste.
D'accord. Et comment on vous contacte à ce moment-là? On verra ça tout à l'heure, peut-être. Hein, parce qu'il y a un site internet d'ailleurs, ici à l'IRCGN. On se retrouve dans un tout petit instant pour la dernière partie de l'émission et nous allons parler de l'accident de la princesse Diana.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
À l'occasion de l'apparition du livre de Jacques Pradel, « Police scientifique, la révolution, l'heure du crime » est en direct, je vous le rappelle aujourd'hui, de l'Institut de recherche criminalistique de la Gendarmerie nationale au fort de Rosny-sous-Bois jusqu'à 15h.
Oui, et nous évoquons un certain nombre d'affaires qui ont été résolues ou sur lesquelles il y a eu un énorme travail des experts de la gendarmerie, les vrais experts, ceux qui nous donnons la parole dans cette émission spéciale et également dans ce livre. Et on n'enquête pas, on l'a compris avec ce que disait le docteur Yves Chulliard il y a un petit instant, que sur des crimes, mais aussi par exemple sur des accidents. Et on va en venir à la mort de Lady Diana, donc Diana Spencer. Ça s'est passé dans la nuit du 31 août 1997, on apprend vers 0h20, on apprend en tout cas dans la nuit que Lady Di a été victime d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, que le chauffeur et le milliardaire Dodi Al-Fayed sont également décédés dans cet accident. Il y aura en fait un survivant, Trevor Rees-Jones, le garde du corps qui était à l'avant, d'ailleurs curieusement à la place du mort. La voiture roulait à très vive allure. Et Stéphane Milagou ouvre son journal de 6h du matin sur RTL ce 31 août par l'annonce de l'accident.
C'est l'information de la nuit, la mort de la princesse Diana, victime d'un grave accident de la circulation à Paris peu après minuit. Lady Di était aux côtés de son compagnon Dodi Al-Fayed qui lui a été tué sur le coup, ainsi que le chauffeur de l'hôtel Ritz qui conduisait. Le quatrième passager, le garde du corps de Diana, a lui été grièvement blessé. Lady Di a été dans un premier temps transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec un traumatisme crânien. Elle vient donc de succomber à ses blessures. Samuel Goldschmidt, les circonstances de cet accident. La princesse et Dodi se trouvaient à l'arrière d'une Mercedes Classe S lors de cet accident, à l'entrée du tunnel de l'Alma, près de la Seine, à Paris donc. Et la voiture roulait à très vive allure, poursuivie par des paparazzi à moto.
Oui, probablement plus de 100 km/h. Le choc a évidemment été très violent. La voiture a vraisemblablement fait une embardée, des tonneaux même, avant de s'immobiliser à contresens sur la chaussée. La Mercedes a été sortie avec précaution du tunnel vers 5h ce matin et les policiers ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour la hisser sur le camion grue tant la carcasse menaçait de se disloquer. La voiture est détruite, le radiateur avant a été comprimé, encastré presque à l'intérieur de l'habitacle. Tout le plafond de la Mercedes est écrasé sur les sièges. Un groupe de badauds a assisté tôt ce matin à la sortie du tunnel. Et dans la foule, le murmure de cette femme, comment a-t-on pu sortir des gens de là-dessous ?
Alors, Je me tourne cette fois-ci vers le général Jacques Hébrard, qui a suivi de très près, qui a vécu, on pourrait dire, de très près, pendant de très nombreux mois, l'expertise de cette voiture qui avait été confiée à l'IRCGN par la justice, par le juge d'instruction, Hervé Stéphan, et avec d'ailleurs aussi l'accord de Martine Monteil, la patronne de la CRIM, que la presse britannique avait surnommée Mademoiselle Maigret, d'ailleurs, à cette occasion-là. Alors, cette voiture, vous avez pu... C'était votre mission, en tout cas, la faire parler, si j'ose dire, parce que le père, Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Al-Fayed, était persuadé depuis le début qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un attentat.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a procédé au démontage complet du véhicule et à l'examen de toutes les pièces essentielles. Donc, bien sûr, en liaison étroite avec Daimler-Benz, parce qu'il y avait effectivement des données électroniques qu'il fallait pouvoir... extraire, et donc il nous fallait ce support-là pour y arriver. Mais c'est vrai qu'on a démonté totalement la voiture. Elle a été, je dirais, remise dans des conteneurs à la fin en pièces détachées. D'ailleurs, conteneurs qui feront l'objet d'une contre-expertise en Grande-Bretagne ultérieurement. Mmh. Et puis, il faut dire aussi qu'on avait travaillé sur la mise en évidence de la Fiat Uno. Elle n'a jamais été retrouvée, mais c'est vrai que les enquêteurs avaient relevé à proximité du véhicule des éclats de verre, d'optique. Et puis surtout, sur les portières et sur le rétroviseur, on avait pu déceler des traces de peinture blanche. Et donc l'analyse conjointe de ces deux éléments avait permis de nous cibler sur une Fiat Uno. Il y en avait 40 000, on a pu la trouver.
Jacques Hébrard, attendez, parce que pour partir d'une infime trace de peinture et arriver à dire c'est une Fiat Uno et en plus elle est de cette année-là, ça stupéfie quand même beaucoup, hein,
oui, mais
le public.
C'est la force des laboratoires, c'est la richesse des banques de données techniques. Là, c'est vraiment des choses qu'on construit au fil du temps, pièce par pièce, sur les éléments de peinture, sur les optiques, sur les fibres, donc tout est collectionné et donc ça nous permet, quand on est confronté à ces affaires-là, et c'est la différence avec la série Les Experts, c'est qu'il nous faut beaucoup plus de temps pour arriver,
bien sûr,
et que bien entendu il y a aussi le travail des enquêteurs qui est essentiel.
Ouais. Et cette expertise avait été confiée à l'IRCGN par le juge parce que l'IRCGN était le seul en France à posséder une banque de données optique et peinture dont vous venez de parler. Alors pour lever, parce que c'est toujours la question qu'on pose, n'y a-t-il plus de doute vraiment sur le fait que ça avait pu être quand même un attentat. On va écouter une dernière archive et ça sera la fin de cette émission. C'est une archive RTL qui date du 14 décembre 2006. Côté britannique, Lord Stevens, chargé de l'enquête par la justice britannique, réfute définitivement lui aussi la thèse du père de Dodi Al-Fayed. Au terme de 3 ans d'enquête, Scotland Yard l'affirme, il n'y a pas eu de complot sous le tunnel de l'Alma le 31 août 1997. On va écouter le récit de notre correspondant en Grande-Bretagne, Daniel Caron.
La voiture allait trop vite, le chauffeur avait trop bu, ce n'est ni un flash dans le tunnel qui aurait aveuglé le chauffeur, ni l'introuvable Fiat Uno qui ont provoqué l'accident. Diana n'était pas enceinte et n'allait pas se fiancer à Dodi. Après 3 ans d'enquête, l'audition de 300 témoins, d'une vingtaine d'experts, Lord Stevens réfute la thèse du complot lancé par le père de Dodi Al-Fayed, celle d'un attentat organisé par le prince Philippe avec les services secrets britanniques pour empêcher la mère du futur roi d'Angleterre d'épouser un arabe. Il n'y avait pas de complot pour assassiner un occupant de cette voiture. Alors si ce n'est pas un complot, qui est responsable? Eh bien, explique Lord Stevens, c'est une chaîne d'événements depuis l'arrivée de Diana et Dodi sur le sol français qui s'ajoutent les uns aux autres. La vitesse, l'alcool, mention spéciale pour la poursuite des paparazzi derrière la voiture, mais aussi l'imprudence des 4 passagers de la Mercedes. Aucun n'avait mis sa ceinture. Le garde du corps, dont on avait toujours dit qu'il l'avait mise, a en fait été sauvé par son airbag.
Voilà, ce sera la dernière archive et la fin de cette émission. Je voudrais remercier très vivement le colonel Daoust, Jacques Hébrard, Yves Chulliard et mon confrère Damien Delsoni du Parisien d'avoir participé à cette émission. La suite, elle est dans le livre, bien sûr. Et on peut être beaucoup plus long par écrit que par oral, vous le comprendrez. Je voudrais simplement faire un petit clin d'œil à Marc Bisset et à Serge Mariani qui nous rejoint notre équipe pour réaliser l'heure du crime, ainsi qu'évidemment à Bernard Gic. Et ici, c'était Bruno Loriot, la technique d'RTL, en direct du fort de Rosny-sous-Bois. Au revoir, à demain.